encore une émission des carnets de Comaguerre sur Radio Galère, un peu plus confinée que d'habitude, mais pas tant, et on se réjouit en pensant que comme vous n'êtes pas à plus de 10 km de votre appareil radio, vous allez écouter plus nombreux que d'habitude. Je n'en sais rien. De toute façon, vous savez qu'il y a un podcast sur le site de Radio Galère, sans souci, en se référant à la date et au jour de l'émission. Vous retrouvez tout ça très rapidement en ligne. Aujourd'hui, nous allons passer un certain temps en compagnie d'un interviewé qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir à l'antenne, qui s'appelle Pierre Kipré. Alors je reviens en quelques mots sur le personnage avant de lui donner la parole. Pierre Kipré est ivoirien, il est historien universitaire de formation, aujourd'hui à la retraite, donc c'est un historien émérite, comme on dit dans les universités. Il a l'avantage d'être un des meilleurs connaisseurs possibles de l'histoire de l'Afrique. C'est son travail d'historien. Il a l'avantage aussi d'avoir fait toutes les preuves de ses qualités dans les performances universitaires françaises, agrégation, doctorat, avec le meilleur maître de thèse, puisqu'il s'agit, nous l'a dit l'autre jour, de Madame Coquerie-Vidot, qui est la meilleure, à mon sens, le meilleur connaisseur africain dans l'université française aujourd'hui. Et puis, outre ses qualités universitaire éminente, ses qualités de recherche, il a occupé aussi des fonctions officielles, j'allais dire, dû sa modestie en souffrir parce qu'il les méritait. Il a été pendant 6 ans ministre de l'Éducation nationale dans son pays, et son dernier poste officiel, ça a été un poste particulièrement, j'allais dire, troublé, puisqu'il s'est retrouvé le dernier ambassadeur de France de Côte d'Ivoire à Paris, en France, donc au moment où la France organisait la disparition, la chute du président Laurent Gbagbo, pour le remplacer par le personnage choisi par la France, plus que par les électeurs, mais nous n'étendons pas là-dessus. Et donc il était à Paris, dans l'ambassade de Côte d'Ivoire, à un moment où effectivement tous les amis de Laurent Gbagbo pouvaient craindre pour leur santé et même pour leur vie. Ça, il le dirait à qui veut l'entendre, parce qu'effectivement, le détail des événements est assez inquiétant de ce point de vue-là.
Bon. Il y a 10 ans, jour pour jour, à quelques jours près, au mois d'avril 2011.
Voilà, tout ça remonte à il y a 10 ans. Bon, il a donc dû s'exiler dans un autre pays, puisque son pays lui était interdit, puisque les gens qui lui étaient hostiles, le pouvoir qui lui était hostile était au pouvoir, il l'est encore. Et il a fini par être autorisé à retourner sur le sol de la République française, en attendant, et c'est son espoir, de retourner sur le sol de son pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et il a suivi tous les événements donc, de cette période-là, du plus près, avec à la fois sa connaissance de l'histoire, du contexte politique, et puis, en particulier, c'est ça qui nous a amené à l'interviewer aujourd'hui, sa connaissance du personnage central qu'est Laurent Gbagbo, puisqu'en fait, il se trouve qu'ils ont le même âge, qu'ils sont allés, comme on dit, à l'école ensemble, et que donc ce sont deux amis. Même si, effectivement, vous l'entendrez, ils n'ont pas suivi... Pierre Kipré n'a pas eu en tant que tel d'activité politique, mais il sait exactement, presque au jour le jour, il a la confiance de Laurent Gbagbo, il sait exactement ce qui se passe, et il a des informations réfléchies sur la situation. Et on avait décidé de l'interviewer, non pas pour parler de Laurent Gbagbo, mais parce qu'il était à l'origine d'un livre qui a été publié il y a quelques semaines, qui s'appelle « L'Afrique en perspective », qui est un rassemblement de textes, de contributions sur comment des responsables africains, je mets un mot général responsable, politique, économique, etc., voient l'avenir après cette pandémie qui est un peu une espèce d'horizon vague dans la perspective de l'humanité, dans sa totalité d'ailleurs. Donc c'est ce livre qui s'appelle « L'Afrique en perspective » qui devait faire l'objet d'une interview. Et puis ce livre, donc « L'Afrique en perspective », sorti il y a une quinzaine de jours, était la suite d'un ouvrage sorti 2 ans plus tôt maintenant, « Oser les ruptures », où là il s'agissait d'un rassemblement de réflexions d'universitaires, de politiques, d'économistes, de sociologues, de médecins africains pour parler de l'Afrique face à la pandémie. Donc ça, ces 12 ouvrages restent tout à fait d'actualité. Mais au moment où on se retrouvait avec Pierre pour essayer de faire pour envisager cette interview sur ce livre nouvellement sorti, nous nous sommes dit, à l'évidence, l'important dans l'actualité, c'est un jugement qui va être rendu donc ce mercredi 31 mars 2021, jugement par la Cour pénale internationale. Ça éclipse tout le reste, puisque ça, comme vous allez l'entendre et comme il va le dire avec un grand talent et même beaucoup d'émotion tout à la fois, cet événement est un événement qui fera date dans l'histoire. de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire des rapports entre les pays d'Afrique et la France, dans l'histoire des rapports internationaux, et j'allais même dire dans le sens de l'œuvre du travail politique des chefs d'État. Qu'est-ce que c'est ? Qui mérite le titre des chefs d'État ? C'est presque ça qu'on pourrait intituler, le titre qu'on pourrait donner à cette interview. Donc c'est là-dessus qu'on va entendre Pierre Kipré, et puis ensuite on fera quelques commentaires pour éclairer les différents passages de ces rapports compliqués entre la France et la Côte d'Ivoire. Roselyne.
Peut-être juste préciser que donc mercredi 31 mars 2021 a été rendu un jugement de la Cour pénale internationale, de la Chambre d'appel, qui invalidait totalement la demande d'appel de la procureure Fatou Bensouda et qui a donc rendu Charles Blégoudé et Laurent Gbagbo totalement innocents et libres.
Voilà. Oui, je rappelle effectivement. Donc il y avait eu un premier jugement de la Cour pénale internationale disant que Laurent Gbagbo et Blégoudé étaient acquittés de toutes les charges qui étaient très lourdes, hein, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, c'était le pire des charges possibles. Bon, la procureure avait fait un appel. Elle n'a pas trouvé en 2 ans et 3 mois de recherche d'arguments supplémentaires allant dans son sens. Et les juges, donc, le 31 mars, ont confirmé l'acquittement. Donc c'est un double acquittement avec toutes les obstacles de procédure possibles et imaginables. Je ne viens pas en arrière sur le procès qui ont été mis dans les jambes des avocats de Laurent Gbagbo et de Laurent Gbagbo et de Blégoudé lui-même. Tout a échoué, c'est-à-dire l'acquittement est total, est incontestable. C'est là-dessus que s'ouvre donc l'interview de Pierre Kipré que nous allons écouter maintenant. Je me retrouve aujourd'hui en compagnie de Pierre Kipré, que nous avons déjà reçu à l'antenne. Pierre Kipré, je le situe, donc historien, universitaire ivoirien, ayant en plus occupé, outre son métier de chercheur et d'universitaire très actif, ayant beaucoup produit, a été aussi à des postes très officiels de la République de Côte d'Ivoire, à savoir ministre de l'Éducation nationale pendant, je ne sais pas combien...
Six ans,
coup de chapeau, hein, c'est des longévités dépassant très largement celles dans la République française où chaque ministre de l'Éducation nationale, encore que Blanquer semble s'accrocher à son siège, et ensuite, dernier poste officiel occupé, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire à Paris, dans les moments les plus délicats de l'histoire de nos relations avec cette République sœur. Voilà, puisque c'est le moment, et ça nous fait rentrer dans le vif du sujet, c'est le moment donc où le président de la République de Côte d'Ivoire, un certain Laurent Gbagbo, dont vous avez déjà entendu parler, se met à avoir des difficultés avec le protecteur. J'utilise le terme avec ironie, mais vous allez comprendre pourquoi. Et donc, la semaine que nous venons de vivre, que les Africains, tous les Africains viennent de vivre, en particulier ceux qui vivent ici, mais tous ceux du pays là-bas et tous ceux d'alentour, pas que de la Côte d'Ivoire, a été marquée par un événement historique. C'est-à-dire que ce chef d'État inculpé par la Cour pénale internationale de tous les crimes dont cette Cour s'occupe, donc crimes contre l'humanité, crimes de guerre, je crois que tout y était, il y avait la panoplie complète des délits que couvre la Cour pénale internationale, il a été donc acquitté et son acquittement a été confirmé donc ce mercredi passé, de telle façon que Laurent Gbagbo, qui a été écarté de son poste et qui a été évincé de son pays donc il y a maintenant pratiquement 10 ans, un peu plus, puisqu'il y a eu le temps de passage à Korogo, ça a été, je crois, 3 mois à Korogo, un peu plus, tu vas nous le dire. Depuis donc la fin de l'année 2011, Laurent Gbagbo attendait, dans les prisons de la Cour pénale internationale, qu'il soit statué sur son sort pour savoir s'il avait commis les crimes affreux dont on l'inculpait. Or, il n'est coupable de rien, et la Cour pénale internationale vient de confirmer qu'il était acquitté. On en est là. Et donc, je laisse à Pierre Kipré le soin de développer cet aspect des choses, la libération d'un chef d'État inculpé à tort et inculpé des crimes les plus horribles qu'il soit possible d'avoir.
Bien, merci, Bertrand. Effectivement, la chambre d'appel de la CPI, le 31 mars dernier, a tranché à la majorité de ses membres et a dit son arrêt, par lequel il indique politique, contrairement aux allégations de Madame le procureur Fatou Ben Souda, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont innocents. Et comme l'a déjà démontré la première chambre de la CPI le 15 janvier 2019,
donc il y a déjà deux
ils sont acquittés. Je dois dire que même si nous avons toujours cru en l'innocence de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, ce procès qui a traîné en longueur, qui est passé par toutes les étapes, y compris les étapes qui pouvaient froisser les principes élémentaires du droit. Ce procès, dis-je, est arrivé à son terme. Et nous en sommes heureux. Personnellement, je considère que c'est un motif de satisfaction et de joie personnelle. Mon ami, mon condisciple, mais aussi mon leader politique, Laurent Gbagbo, est définitivement réhabilité, définitivement blanchi des faits qui ont été appréciés par la justice internationale et qui lui étaient reprochés. Crime contre l'humanité, assassinat, viol, que sais-je. Pour quelqu'un comme moi qui connais Laurent depuis si longtemps, je ne reconnaissais pas mon ami dans ses accusations. Je ne le reconnaissais pas. Je ne pouvais pas le reconnaître à travers ces calomnies. Et je dois dire que c'est une très grande satisfaction que non seulement on ait reconnu son innocence, mais qu'on l'ait réhabilité de cette façon. Il avait dit qu'on irait jusqu'au bout. Et nous avons été jusqu'au bout. C'était important pour que le monde sache. Ce n'est pas... Nous ne l'entendons pas en termes de victoire ou de défaite. Nous l'entendons en termes, je dirais tout, à un premier niveau, purement juridique, le droit a été dit au détriment de la politique. Mais ce n'était pas évident au départ. Ce n'était pas évident au départ. Et c'est la deuxième dimension de ma joie, c'est que c'est un moment d'évaluation objective de la mécanique par laquelle les pays les plus faibles sont confrontés en permanence au déni de souveraineté auquel recourent les grandes puissances. Sans remonter loin, on le voit, ces instrumentalisations des institutions internationales, l'ONU, la CPI, dans ce procès de Gbagbo Laurent,
Tout n'est pas parti de Bensouda, c'est parti de Campo. En liaison avec le président Sarkozy et les États-Unis d'Obama et d'autres puissances, puisque c'est l'ONU de Ban Ki-moon. Donc une instrumentalisation des organisations internationales. Mais en même temps, la manipulation de ce que j'appelle les marionnettes nationales, vu des chefs d'État, de la CEDEAO, de l'Union africaine, pérorer, être sûr que l'on a été coupable, ce vilain canard noir qui empêche d'accéder facilement aux prêts, d'accéder facilement à l'aide au développement, de détourner l'argent sans que les grandes puissances ne bougent parce qu'elles y ont leur intérêt. Bref, ces marionnettes locales. Mais aussi, pas seulement des chefs d'État, mais des intellectuels, des membres de l'élite sociale africaine, des militaires, etc., font partie de ces marionnettes. Et à ce monde-là, les grandes puissances vendent de fallacieux discours sur le droit d'ingérence humanitaire, sur, que sais-je encore, la défense des règles internationales de la démocratie. Bref, des discours fallacieux auxquels eux-mêmes ne croient pas. Tout ça pour cacher des interventions militaires qu'ils savent injustes, injustifiées, mais nécessaires pour la défense de leurs intérêts. Et le cas de la Côte d'Ivoire, le cas de mon pays, n'est pas le seul. Parce qu'au même moment, il y a eu le cas de la Libye, et on voit les conséquences aujourd'hui.
Avec les mêmes acteurs. Oui.
Avec les mêmes acteurs. Avec les mêmes acteurs. Mais ces pratiques de ces grandes puissances finissent par se retourner contre eux lorsque les contradictions sont trop criardes. Lorsque ces contradictions les obligent finalement à se dire, écoutez, on a été un peu trop loin, il faut donner un minimum de crédit aux institutions internationales que nous décrions l'autre jour. Surtout si, dans certaines de ces institutions, il y a des magistrats, comme à la CPI,
bien sûr,
qui croient encore à la valeur du droit, à la valeur de la justice. C'est ce retournement qu'on aura vu grâce à ces deux juges de la première chambre. Et grâce à la majorité des juges de la chambre d'appel. C'était un retournement, parce que les contradictions étaient tellement grossières qu'il fallait donner un semblant de crédibilité à la CPI. Donc, cette libération définitive de mon ami, je la considère comme un moment d'évaluation objective de ces mécanismes. C'est aussi un motif d'approfondissement, de ce que devrait être notre compréhension de la résistance citoyenne, dans nos pays, que l'on tente de de maintenir par tout moyen dans une situation de souveraineté dévoyée. Une situation de souveraineté dévoyée. Et ici, face à ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est un ensemble informe et à géométrie variable, autant que c'est un, autant qu'il est en même temps un concept flou, qu'on veut vendre à notre raison par tout moyen mis en œuvre par ces puissances médiatiques. Donc face à cette communauté internationale, lorsqu'il y a des injustices aussi criardes, la clameur publique des opprimés finit par l'emporter, finit par se faire entendre, Et lorsqu'elle finit par se faire entendre, ce qu'on croyait être le rouleau compresseur de la communauté dite internationale se grippe. Tant que les opprimés se situent dans la posture de la servitude volontaire, on peut dire que l'impunité de ces grandes puissances se développe. Mais lorsque la clameur devient haute, il n'y a plus d'impunité. Et c'est ça, au fond, qui fait la différence. Ce n'est pas une question de position partisane. Ce n'est pas la question de la résistance d'un parti politique, fut-il celui créé par mon frère et ami Laurent Gbagbo, et auquel je n'appartiens pas. Je ne suis pas du FPI. Je ne suis plus d'aucun parti. Mais je pense que la résistance citoyenne l'emporte surtout. La résistance citoyenne. Parce qu'au fond de la résistance citoyenne, il y a la survie de la communauté nationale. Elle, elle est pérenne, elle est éternelle, ou on la veut éternelle. Un parti politique, ça finit vite. C'est pour cela que la résistance citoyenne est si importante. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette liberté retrouvée par mon frère et ami et par mon fils Blégoudé? À première vue, en tout cas, à cette étape de ma réflexion, qui a encore tous les aspects de la subjectivité, je situe ces leçons à trois niveaux. D'abord pour la Côte d'Ivoire. Cette libération nous incite à construire notre communauté nationale sur la vérité et sur le respect de la Constitution que nous nous sommes donnés librement et de manière consensuelle. Ce n'est pas pour les Blancs qu'on a pris cette constitution, c'est pour nous-mêmes, c'est pour régler nos problèmes. Il faut que nous respections notre propre engagement. Et il faut en même temps tourner le dos à ces idées de revanche. Revanche contre qui? On ne refait pas l'histoire. L'eau est versée. Bon, essuyons l'eau là, et avançons. Donc, il faut tourner le dos aux idées de revanche, de règlement de compte, Enfin, on ne s'en sortirait plus. On n'aurait plus de communauté nationale. Il faut avancer sur la voie du progrès. Et un progrès conduit tous ensemble par nous-mêmes. Certes avec des amitiés dehors, mais conduit par nous-mêmes. Ce sera la première étape du progrès. Et celui-là qui a le plus souffert de l'oppression, qui a le plus souffert dans cette situation, c'est celui-là qui a aussi la force morale la plus élevée pour conduire cette réconciliation. Pour conduire ou être le principal acteur du rétablissement de la cohésion sociale. On me dira, c'est parce que c'est mon ami. Non. C'est Laurent Gbagbo parce que hier, lorsqu'il menait son combat pour le multipartisme, il a toujours fait preuve d'une hauteur de vue. Il a été l'opposant le plus farouche à Houphouët-Boigny. Je prends juste ce cas. Mais lorsque Houphouët-Boigny est mort, il a dit stop
au parti unique.
Personne ne doit bouger tant qu'on n'a pas enterré dignement notre président de la République. Il fallait avoir l'auteur de vie. On l'a mis en prison. Ouattara l'a mis en prison. Souvenons-nous du 18 février 92. Et pourtant, plus tard, parce qu'il estimait que c'était possible, il a été un allié de Ouattara. Plus tard, parce qu'il estimait que c'était nécessaire et qu'il fallait que ce concitoyen participe aux élections présidentielles, il a accepté. Il faut avoir une grande force morale pour surmonter ses blessures personnelles et ne voir que l'intérêt de la nation. C'est quoi qu'on aura qui peut le faire? Il n'y a pas si longtemps, lorsque tout le monde parlait de lutter contre le troisième mandat, Gbagbo a été le seul à dire, je comprends, mais discutons avec Ouattara. Tous, mettons-nous ensemble, discutons, trouvons des solutions consensuelles pour que le pays n'explose pas. On a vu. Donc c'est pour cela que j'ai dit que c'est celui-là qui a le plus souffert de l'oppression, qui a aussi la force morale la plus évidente pour mener cette réconciliation, pour en être le principal acteur. Et il sait y faire. On a vu depuis quand il y a eu la rébellion de 2002, où Laurent n'est-il pas passé? Il est passé partout, pour négocier. C'est important. Donc, première leçon au niveau de la Côte d'Ivoire, de la construction de notre communauté nationale. À nous tous, pas une communauté nationale du nord, de l'ouest, du centre ou autre. La communauté nationale qu'on a commencé à construire en 1960 quand on a eu l'indépendance et qu'on continue de construire. Le deuxième niveau, c'est notre jeunesse, la jeunesse ivoirienne, qui doit comprendre que seule la lutte citoyenne pour la construction de la nation compte, quoi que cela coûte à chacun. Quoi que cela coûte à chacun. Et personne ne mènera le combat à notre place, personne. Blé Goudé, notre fils, a commencé à le comprendre à côté, aux côtés de Laurent Gbagbo, qui tente de le former depuis des années. Mais la route est encore longue. Il nous faut beaucoup de Blé Goudé Mais il nous faut mieux de blé goûter. Je ne veux pas développer ce point parce que, comme beaucoup de nos enfants, notre fils aussi a quelques petites faiblesses. Mais il a trop souffert pour qu'on lui jette la pierre. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et donc, notre jeunesse doit mieux réfléchir à ce qui est arrivé et à ce qui reste comme combat. Et c'est mon troisième niveau, celui de l'Afrique et des peuples opprimés en général. Il nous faut comprendre que le destin de nos peuples est entre les mains de ces peuples. Et le destin de ces peuples n'est pas dans les mains des grandes puissances qui ont des mains opportunistes, mortifères. Ces grandes puissances qui poursuivent leurs propres intérêts hégémoniques. C'est parce qu'ils sont hégémoniques qu'il y a des peuples opprimés. Hélas, un constat que nous devons faire, c'est que la scène internationale au début de ce 20e siècle est encore sous le régime de la loi du plus fort. Il ne faut pas se le cacher. C'est une réalité. Mais il faut mener le combat malgré ce handicap pour pouvoir l'emporter. Ce petit cas de la liberté définitive de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé m'amène à ces réflexions-là. L'humanité doit aller vers la reconnaissance définitive de la dignité de chacun, de la dignité de chacun, de la liberté de chacun, du droit de chacun à apporter sa contribution sans pour autant que ce soit un crime. Le crime contre l'humanité se situe là. Laurent n'a commis aucun crime